Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzahn, bienvenue dans un nouveau podcast. Le thème aujourd'hui est Hop, un sondage, le désarroi des politiques français face à l'incertitude. 18 mois après le début de la pandémie, le monde politique n'a toujours pas pris la mesure de l'incertitude dans laquelle nous vivons désormais et de ce qu'elle implique. Le politologue Dominique Régnier le soulignait récemment en disant « Il n'est pas rassurant que dans ce climat d'incertitude et de grands chamboulements, on ait l'air d'aller à l'élection présidentielle comme si rien ne se passait. Nous allons déchanter. » Fin de citation. La difficulté d'admettre que le monde a changé définitivement est fréquente dans l'histoire et elle se termine toujours mal lorsqu'on se fait rattraper par la réalité. Il est grand temps que le monde politique développe une culture de l'incertitude pour comprendre une époque qui change. Alors il faut se pincer pour le croire, et j'ai moi-même failli faire un écart sur la route en entendant le politologue Pascal Perrineau l'annoncer à la radio. Pour bâtir son programme, le parti politique Les Républicains a lancé une grande enquête réalisée par l'Institut de sondage IFOP lundi 30 août auprès de 15 000 personnes. Alors l'objectif de cette enquête est de mieux cerner les attentes de l'électorat de la droite et du centre à l'approche de l'élection présidentielle. Les sondés devront sélectionner 4 thèmes leur semblant prioritaires pour 2022 parmi 20 propositions, crise sanitaire, immigration, lutte contre le terrorisme ou éducation. Un sondage pour déterminer leur politique? Sérieusement? Mais alors si les politiques, dont beaucoup sont élus locaux, ne savent pas ce qui est important pour les Français, qu'ont-ils fait ces dernières années? Aucun travail de terrain, apparemment. Alors normalement, c'est leur rôle, dans leur travail au quotidien, d'être au contact de ce terrain pour le sentir. Et qu'il faille organiser un sondage pour savoir ce qui importe aux Français est un formidable aveu d'échec d'une classe politique déconnectée et surtout paresseuse. Alors par ailleurs, la démarche procède d'une grande naïveté. Tout le monde sait ce que donnera le sondage. On voudra plus de sécurité, plus de médecins, de policiers, de pompiers, moins d'impôts bien sûr, plus de pouvoir d'achat, moins d'immigration, une touche de transition écologique, alors à peine, hein, nous sommes un parti de droite après tout. Enfin bref, une somme d'exigences contradictoires parce que ça ne coûte rien de demander. Le catalogue des lendemains qui chantent en quelque sorte. Aucune révolution n'est née d'un sondage. De même qu'en innovation, aucun grand produit n'est né d'une étude de marché ni d'une addition de besoins. Ni l'électricité, ni la Ford T, ni l'avion, ni le téléphone mobile, ni Internet, ni la sécurité sociale. François Mitterrand a aboli la peine de mort malgré les sondages. L'idée très cartésienne selon laquelle on va leur demander quels problèmes sont importants et puis ensuite on va élaborer une réponse est d'une naïveté confondante. En outre, la démarche ignore les leçons de l'histoire et notamment la catastrophique contribution des sondages aux élections. Rappelons qu'aucun d'entre eux n'avait prévu la victoire de Donald Trump aux États-Unis en 2016 et qu'en France, à l'automne 2016 aussi, Emmanuel Macron ne figurait même pas parmi les candidats testés par les sondages. Hillary Clinton a perdu la primaire contre Barack Obama alors qu'elle avait fait des sondages et des enquêtes quantitatives segmentées son arme de prédilection. Jamais une équipe de campagne n'en avait autant su sur les groupes, segments et sous-segments de la population américaine avec leur thème prioritaire, avec la technique fameuse du micro-targeting, micro-ciblage. Elle a refait la même erreur face à Donald Trump en perdant une élection imperdable, développant une incompréhension encyclopédique de l'Amérique à base de big data et de sondages. Comme l'observe joliment l'historien François Hartog, ce n'est pas en comptant les bulles que l'on comprend le mouvement de la mer. Sans compter que les 10 sondages sont organisés par des membres de l'élite médiatico-intellectuelle très éloignée des réalités du pays qu'elle méprise par ailleurs. L'aveuglement est ici construit de façon déterminée. La pensée politique française, alors si tant est qu'on puisse employer ce mot en ce moment, est très en retard sur les évolutions sociétales profondes. On peut contraster cette inaptitude du monde politique à comprendre la nature de l'incertitude et ce qu'elle implique avec le monde de l'entreprise qui, selon moi, est bien plus avancé dans sa prise de conscience. Alors, dans mon travail avec les dirigeants d'entreprise, j'observe en effet que ceux-ci ont au moins compris 3 choses. 1. Après la pandémie, on ne reviendra pas au monde d'avant. 2. Le fameux monde d'après est un mirage. Et donc, 3. Nous sommes condamnés au monde d'aujourd'hui, pétri d'incertitudes, ce qui nécessite de repenser les fondamentaux de l'organisation. Même s'ils sont loin d'avoir toutes les réponses, bien évidemment, ils ont au moins compris la nécessité d'engager ce processus de remise en question. Ce n'est ainsi pas d'un comptage de bulles, pour reprendre l'expression de François Hartog, dont le monde politique a besoin, à base de sondages et de notes savantes produites par de futurs membres de cabinet, mais de comprendre la façon dont la mer évolue. Et ce qui détermine cette évolution, nous le savons. Ce sont les modèles mentaux, c'est-à-dire les croyances et valeurs que nous développons pour expliquer comment le monde fonctionne. Ce sont ces modèles qui nous permettent de donner un sens à ce que nous vivons. En période de rupture, comme actuellement, ces modèles sont remis en question, certains deviennent obsolètes et de nouveaux émergent. Face à l'incertitude, il faut donc une démarche de compréhension profonde et celle-ci passe par un travail sur les modèles mentaux pour élaborer une nouvelle grille de lecture du monde. Celle-ci ne s'obtiendra pas par un sondage, ce n'est d'ailleurs pas un travail purement intellectuel établi en chambre. On ne peut se plonger dans les modèles mentaux qu'en étant immergé dans le réel. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Ainsi écrivait Gramsci. En effet, les bouleversements du monde rendent les anciens modèles obsolètes, et ceux qui émergent ne sont pas encore clairs. C'est ce qui explique l'incertitude. Dans ce vide ainsi créé, aucun modèle ne peut donner un sens à ce qu'on vit, et quand on ne peut pas donner un sens à ce qu'on vit, il ne reste que le désespoir ou la violence, ou l'appel à un sauveur qui viendra, avec des modèles mentaux tout prêts, combler le vide et soulager tout le monde. La situation actuelle est ainsi grosse d'immenses risques politiques et sociaux. Le mouvement des Gilets jaunes constituait déjà un avertissement à la fois des bouleversements sociaux et politiques, mais aussi de l'incapacité des modèles actuels à l'interpréter et lui donner un sens. Mais plutôt que de le prendre au sérieux et de creuser la question, et voyant qu'il ne pouvait pas le récupérer, le monde politique a préféré laisser pourrir le mouvement sans travailler sur les causes. L'avertissement a été ignoré. Les mouvements de fond actuels autour des vaccins et du pass sanitaire constituent eux aussi des avertissements d'un décrochage de modèles mentaux, mais ils sont balayés par un monde politique pressé d'avancer sur la préparation de l'élection présidentielle, qu'on persiste à nous présenter comme le grand moment de la vie politique française, un peu comme le dîner à la table du commandant Smith devait sans doute être le grand moment de la vie du Titanic. Tout va très bien, madame la marquise. Il faut espérer qu'il se trouvera des politiques acceptant de faire une croix sur la présidentielle qui vient et qui engageront le travail intellectuel de fond qu'appelle notre époque. Merci de votre attention. Vous pourrez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzahn.com. À bientôt.